Nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 une aide-soignante à l'hôpital Saint-Antoine de Paris, représentante du collectif Interurgence, et un urgentiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris également. Il est professeur à la Sorbonne Université. Vos questions, amis auditeurs, dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application de France Inter. Candice Lafarge, Jonathan Freund, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Les services d'urgence sont en crise, un collectif donc a été créé, il y a des mouvements de grève, des manifestations, ça dure depuis 3 mois, aujourd'hui encore devant le ministère de la Santé, les agences régionales de santé. Cela fait, quand on regarde les choses à plat, à froid, des années qu'on dit que les urgences sont en train d'exploser. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui exactement? Diriez-vous, Jonathan Freund, que le moment est inédit, que la crise du système s'approfondit, ou que ce sont les personnel, vous tous, qui n'en pouvez plus?
C'est les deux à la fois, je crois, hein, vraiment. C'est effectivement, comme vous le dites, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on parle de la crise des urgences. Tous les hivers, c'est la même chose. Tous les étés, c'est la même chose. Puis vous avez même l'intersaison, probablement. Là, ce qui se passe, c'est que effectivement, à un moment, il y a certaines personnes qui n'en pouvaient plus. Ça fait longtemps qu'on dit « ça va craquer ». Et ça a commencé par les aides-soignants, ou les personnels, en tout cas soignants, paramédicaux d'un hôpital, qui ont dit « on n'en peut plus ». Et en fait, ils ont été très vite rejoints par d'autres, parce que beaucoup de gens n'en peuvent plus.
Ras-le-bol.
Mais ras-le-bol de quoi, préciser? Qu'est-ce qui est inédit dans cette crise-là aujourd'hui?
Alors, ce qui est inédit, il n'y a pas eu un changement particulier il y a 6 mois. C'est juste la continuité de toute la politique de déstructuration de l'hôpital public qui retentit à la fin sur les urgences. Les urgences, ça va être le symptôme de l'hôpital public qui va très mal. Les urgences, c'est 21 millions de visiteurs par an, alors que c'était 10 millions il y a une vingtaine d'années. Et donc, vous avez doublé le nombre de gens qui viennent aux urgences en diminuant le nombre de lits d'aval. Donc, c'est des patients qui restent longtemps sur des brancards, et ça devient en fait ce qui a beaucoup gêné les gens, c'est de la maltraitance des malades qui sont pas soignés aussi bien qu'on le voudrait. C'est ça qui a fait réagir les gens, je pense.
Candice Lafarge, vous êtes aide-soignante, aidez-nous à comprendre ce qu'est votre vie quotidienne aux urgences de Saint-Antoine. À quoi ressemblent vos journées?
Alors, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir. Que ce soit aux urgences de Saint-Antoine ou aux urgences, peu importe, c'est accueillir les patients, c'est prendre le tout venant. C'est des brancards saturés, nos locaux qui ne sont plus assez adaptés pour accueillir une population de plus en plus importante. C'est 10 heures, 12 heures d'attente avant de voir un spécialiste, 6 heures, 7 heures avant de voir un médecin. On a de plus en plus de patients, on n'a pas d'effectifs sur le terrain paramédicaux et médicaux redotés correctement. On a un problème de structure où nos structures deviennent de plus en plus petites et ne peuvent plus accueillir autant de monde. On a un problème sur le terrain d'attractivité. Nos métiers ne font plus rêver, donc on est victime des non-CV déposés pour les urgences. C'est un métier qui est compliqué, c'est un métier qui à la fois est magnifique. On travaille avec un super beau plateau technique, on travaille avec des médecins, on travaille avec des infirmiers, avec des aides-soignants. C'est trois personnels qui ne peuvent pas se dissocier. On présente un diagnostic rapidement dans l'urgence. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de renseigner correctement nos patients. Ils sont dans l'attente, ils sont dans l'attente de soins, ils sont dans l'attente de réponses. Parfois, ils sont dans l'attente d'un sourire qu'on ne peut même plus leur apporter parce qu'on n'a pas le temps. On nous demande de faire plus avec moins. Ça devient compliqué.
Vous, qu'est-ce qui vous a attiré, vous, à l'origine, dans les urgences? Pourquoi vous vouliez être soignante aux urgences?
Les urgences, parce que c'est monsieur et madame tout le monde, parce qu'on ne sait pas qui est-ce qui se présente, pourquoi, c'est la surprise, c'est une expertise à son haut niveau intellectuel, c'est pouvoir jongler de pathologie en pathologie, d'avoir une réactivité, c'est un métier qui est passionnant, comme je vous l'ai dit, vous travaillez avec une équipe en support qui est merveilleuse, mais nos professions sont mises à mal aujourd'hui. On n'augmente pas nos salaires, nos structures souffrent de pénuries financières. Tous les jours, on est en galère de brancards, on est en galère de pieds à perfusion. Des fois, on est en galère de médicaments parce que les dotations ne sont pas faites correctement. Et ça, ça a un impact sur la population. Quand on attend 5 heures, 6 heures sans voir un médecin, vous avez beau sourire à votre patient, il n'en peut plus, il est désemparé. Alors effectivement, on nous parle de grandes réformes de santé, mais nous, on a besoin d'effets immédiats. C'est maintenant, c'est un problème qui dure depuis trop longtemps, c'est un problème que les paramédicaux, c'est les aides-soignants et les infirmiers, les personnes qui sont en grève en ce moment, Ça va faire plus de 10 ans qu'on tire le signal d'alarme sur nos conditions de travail, sur ce problème d'attractivité, sur ce problème de structure. Aujourd'hui, on pâtit de cette absence de réponse et de ce dossier inachevé.
Alors, que demandez-vous, l'un comme l'autre, Candice Lafarge, Jonathan Freund, le gouvernement? Agnès Buzyn, à ce micro, disait avoir débloqué 415 millions d'euros depuis décembre dernier. Agnès Buzyn disait avoir mis sur la table la hausse des tarifs hospitaliers, une première depuis 10 ans, et annoncé le recrutement en urgence, si j'ose dire, de nouveaux urgentistes. Est-ce que ça vous va, Jonathan Freund?
Alors oui, c'est sûr que c'était très énervant d'avoir entendu ces propos-là, parce que, donc déjà, dire j'ai 500 millions sur la table, non, en fait c'est la dette des hôpitaux qui, grâce à la hausse des tarifs hospitaliers, a été diminuée de moitié. Bon, il reste 500 millions de dettes aux hôpitaux, donc c'est pas de l'argent qui est injecté, et encore moins dans les urgences directement. Donc là déjà je vois pas vraiment le rapport. Et ensuite cette histoire des 400 urgentistes parés à tout, formés, qui arrivent dans 2 ans, soyez patients, ça excusez-moi, c'est très énervant aussi. En fait c'est juste, il y a eu un changement de nom, de qualification des jeunes médecins formés. Il y en avait 500 par an. Avec la réforme du troisième cycle, maintenant il y a des urgentistes pleines spécialités qui arrivent, mais c'est la même chose, hein. Je veux dire, j'étais quand même urgentiste moi, avant d'être sous ce régime-là. Il y en avait 500 par an qui étaient formés, on voulait en former au moins 500, voire un peu plus, et on en a obtenu 460 par an. Donc c'est pas 400 en plus, c'est 40 en moins par an.
Mais du coup, qu'est-ce que vous demandez? Vous dites ça, les propos de la ministre vous ont énervé, ce sont vos termes, mais qu'est-ce que vous demandez? Si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi?
Alors, principalement, comme l'a dit Candice, déjà, d'une part, il faut rendre notre spécialité plus attractive. Alors ça, il y a plusieurs moyens de le faire, mais il faut qu'il y ait moins de postes vacants et qu'il y ait plus de personnel, que ce soit paramédicaux et médicaux. Premièrement, c'est une évidence. Quand vous êtes rentré dans un service d'urgence, vous voyez bien qu'il y a beaucoup trop de malades pour le nombre de soignants prêts. Et ensuite, c'est surtout fluidifier l'aval. Le problème, c'est pas l'amont des urgences. La ministre nous dit, le problème des urgences, en culpabilisant les malades, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent alors qu'ils n'ont rien à y faire. Non, c'est pas le problème des urgences, hein. Effectivement, il y a beaucoup de malades qui viennent aux urgences et qui sont pas en urgence vitale et qui pourraient aller en médecine ambulatoire.
C'est pas un problème, ça?
Non, c'est pas du tout un problème.
C'est pas un problème qui est 20 millions, 21 millions, 25
pas
millions peut-être de personnes qui vont aux urgences tous les ans, alors qu'il y en avait 10 millions il y a 20 ans.
Mais on est là pour eux, c'est pas un problème. Un malade qui vient alors qu'il n'a rien à y faire, comme dirait Madame Buzyn, il nous prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup de ressources. Il va attendre longtemps, malheureusement, mais ça nous prend pas beaucoup de temps, pas de ressources. C'est pas ça qui fait exploser un service d'urgence. Ce qui fait exploser, et ça, c'est scientifiquement très très bien décrit et c'est éprouvé par tout le monde, ce qui cause la surcharge et ce qui fait exploser les urgences et ce qui pousse les gens à bout, c'est les malades graves qui restent sur des brancards pendant des heures. C'est les 180 000 malades qui ont passé la nuit sur un brancard cet hiver, avec une surmortalité importante.
Donc, ce que vous décrivez, pour qu'on comprenne bien les choses, c'est moins une crise des urgences, comme on le dit tous, qu'une crise de l'hôpital aujourd'hui, puisque c'est l'aval. On ne sait pas quoi faire des gens qui arrivent aux urgences et qui ont un vrai problème de santé. C'est comme ça qu'on pourrait le formuler ?
C'est exactement ça. Il faut arrêter de dire que la crise aux urgences, c'est un problème des urgences. La crise aux urgences, c'est un problème de la société, mais c'est un problème de l'hôpital, principalement. Et actuellement, il n'est pas vraiment concerné. Certains hôpitaux ou DG vont se sentir très concernés, et dans ces hôpitaux-là, en général, les services marchent bien.
Candice Lafarge, vous êtes d'accord avec ça ? C'est pas le problème des urgences, c'est le problème de l'hôpital ? Vous êtes d'accord avec Jonathan Freund ?
Nous, on est la première porte. Donc, comme je disais tout à l'heure, on accueille le tout venant. Mais si on n'a pas de possibilité de pouvoir coucher nos patients derrière, effectivement, on se trouve engorgé. Donc le problème social revient aux urgences. Mais on a un problème de structure, on a un problème de lit, on a un problème de maison de santé, on a un problème de relais, tout simplement. Et je rejoins Jonathan, quand Madame Buzyn dit qu'il y a des patients qui n'ont rien à faire aux urgences, faux. C'est la première porte d'entrée de l'hôpital. Quand les centres de santé sont fermés parce qu'à 18h, on n'a pas mis les moyens pour que ça reste ouvert plus longtemps, les gens, où est-ce qu'ils vont? Ils vont aux urgences, et c'est normal.
Donc ce matin, l'un et l'autre, vous ne dites pas aux gens qui nous écoutent, il faut pas aller aux urgences pour un petit bobo, en gros. C'est pas le message que vous avez envie de passer, ni l'un ni l'autre.
Non, on a besoin des urgences. Enfin, je veux dire, on est là pour soigner le tout venant. Donc la personne qui vient parce qu'elle a une entorse à la cheville, elle est tout aussi bien accueillie que quelqu'un qui va faire un infarctus. Et c'est notre mission.
C'est ça la mission des urgences. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Alors évidemment, pour le bien du malade, si jamais il peut avoir une alternative, et consulter un médecin en ville, et s'il peut, c'est mieux pour lui, parce que le malade attendra moins longtemps et sera pris en charge dans de meilleures conditions. Mais on peut pas leur en vouloir et on peut pas culpabiliser les malades en disant presque c'est de votre faute si les urgences explosent. C'est pas vrai.
Et juste d'un point de vue économique, ça coûte de l'argent aux hôpitaux, un tel afflux de patients aux urgences, ou ça leur en rapporte?
Ça rapporte.
Ça rapporte.
Ça rapporte.
Expliquez-nous.
Bah, un patient qui vient parce qu'il n'a pas grand-chose à y faire, il consomme très très peu de ressources. C'est pas pour rien que les hôpitaux privés et les urgences privées prennent principalement ce genre de malade et pas le vieux patient qui est en perte d'autonomie et qu'il faut coucher quelque part et qui demande beaucoup de soins.
Donc un hôpital facture quoi que ce soit comme une nuit d'urgence si la nuit est passée?
Alors attention, alors, la nuit pas forcément pour le malade non grave, mais là il y a un autre problème que vous soulevez, c'est que les malades qui sont graves et hospitalisés sur un brancard qui restent 4 jours dans les urgences, ils vont être facturés 4 nuits, effectivement. Alors c'est un peu délicat quand même, moi ça me gêne de me dire qu'on va facturer au malade ou à l'assurance maladie une hospitalisation alors que le malade a été sur un brancard avec tous les risques que ça comporte.
À l'instant, le directeur général de la PHP de Paris, Martin Hirsch, annonce que pour la première fois, les effectifs des infirmières, des aides-soignants et des médecins augmenteront parallèlement au nombre de patients, et ce dès 2019. C'est l'annonce qu'il vient de faire sur France Info. Est-ce que vous avez une réaction à cela?
Oui, est-ce que c'est rétroactif?
Expliquez.
Bah, je veux bien à partir de maintenant qu'on indexe, j'imagine que non, mais je veux bien qu'à partir de maintenant on indexe la hausse des personnels sur la hausse de l'afflux aux urgences, mais on a quand même 10 ou 15 ans à rattraper.
Candice Lafarge, sur ces annonces?
Je rejoins Jonathan. Trop insuffisant, on a besoin de mesures dès à présent.
Il y a une question sur la manière dont vous faites grève, c'est monté crescendo. En général, aux urgences, les personnels vont travailler et mettent un brassard en disant « en grève ». Il s'est passé quelque chose de nouveau, d'assez inédit, c'est que la semaine dernière à la Riboisière, on en a parlé avec Agnès Buzyn, et à Saint-Antoine, samedi, certains personnels ne sont pas venus et se sont déclarés en arrêt maladie. La ministre a dit que c'était pas bien de faire ça, que ceux qui ont fait ça ont dévoyé les arrêts maladie et entraîné une surcharge pour les autres services. Est-ce qu'elle n'a pas raison d'une certaine manière? Est-ce que ça n'a pas pu mettre en danger la vie de certains patients?
Alors on va tourner le problème différemment. Là on est médiatisé, on est à 3 mois de mouvement de grève. Il faut savoir que dans nos services d'urgence, c'est tous les jours qu'il y a des burn-out, tous les jours qu'il y a de la fatigue chronique, tous les jours qu'il y a des maux en tout genre. On ne se soucie pas de nous. À ce moment-là, il est mis en place par une équipe de suppléance des renforts, de l'intérim s'il y a besoin, et encore à l'année on n'a pas énormément d'intérimaires qui tournent dans nos services d'urgence. Donc là on subit un effet médiatique, mais sur le terrain c'est tous les jours les arrêts maladie. On n'a pas de visite de la médecine du travail. Nous à Saint-Antoine ça fait plus de 3 ans qu'on n'a pas été visité. J'ai des collègues à la Riboisière, notamment 2, à qui on a découvert une tuberculose tardive parce qu'elle n'avait pas été consultée par la médecine du travail, dont une qui a été prise en charge par ses collègues sur un brancard avec un épanchement pleural. Donc là, on se soucie de nous et on se soucie de la manière dont nos arrêts maladie sont déposés. Alors c'est pareil, on choisit pas d'être en arrêt, hein, c'est un médecin qui nous met en arrêt. C'est des souffrances qu'on porte, c'est être soignant, c'est pas facile tous les jours. Donc la pleine lumière aujourd'hui sur les dévoiements, moi je la cautionne pas. On est tous les jours sur notre lieu de travail, on vient travailler quand on a 38,5 de température, on est des gens dévoués au quotidien, donc...
Il y a un risque quand on fait du délestage, entre guillemets, je parle d'un risque pour les patients, il y a tant d'arrêts maladie dans un hôpital et que les patients sont donc répartis sur les autres hôpitaux, est-ce qu'il y a un risque pour ces patients-là?
Il y a des fonctions support en tant que paramédicaux, pardon, donc en tant qu'infirmier et aide-soignant, quand vous avez beaucoup d'arrêts maladie, les fonctions support de suppléance sont là pour pallier à ces manquements et au besoin de commander des intérims. Donc il y a toujours quelqu'un sur le terrain qui est là pour vous soigner.
Vous, ça ne vous a pas inquiété, Nathan Freund, le fait que certains personnels hospitaliers aient choisi de ne pas venir travailler?
Inquiété, je sais pas, on est très concerné par ce problème, mais pour répondre à votre première question, on n'a pas attendu d'avoir ce genre d'action pour que les patients soient en danger. Je prendrais le truc dans l'autre sens. Si jamais tout le monde se met en arrêt et que les gens sont en burn-out, c'est parce que les patients sont en danger. Et je pense que la plupart des gens qui font grève ou qui agitent en ce moment leur drapeau, c'est pas parce qu'ils veulent une meilleure situation, mais le déclencheur, c'est parce qu'on trouve qu'on n'a pas l'occasion de soigner correctement les malades.
Et pourtant, je lisais que notre système français français peut a de très bons résultats, notamment sur la prise en charge des infarctus et des AVC, qu'on est quasiment champion. Donc je vous entends dire vos difficultés au quotidien, et en même temps on a un système de santé qui fonctionne bien, non?
Oui, c'est très bien. On peut se cacher derrière ça. On peut dire que l'espérance de vie continue à augmenter, que tout va bien, mais en pratique,
c'est pas ce que je dis du tout. Entendez-moi, j'essaie de mettre les choses en perspective.
Mais oui, on a une médecine extrêmement performante et on est très très fiers de travailler en France pour avoir connu d'autres systèmes.
On va passer au standard. Très nombreux appels ce matin. Je salue Hélène, docteur Hélène Goulet, Lige sur mon écran d'ordinateur. Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour. Je suis donc le docteur Goulet. Moi, je suis chef de service des urgences de Thenon, donc un hôpital de la PHP.
Alors, dites-nous.
Moi, je voulais rebondir sur ce que disent mes collègues concernant le problème d'attractivité majeure, en fait, que subissent nos structures, parce que c'est vrai sur le plan paramédical, mais c'est également vrai sur le plan médical, où, en fait, on n'arrive plus du tout à recruter dans ces conditions de travail, et avec les salaires que propose l'hôpital public, que ce soit la PHP ou ailleurs. Donc, nous, on est obligés d'avoir recours très régulièrement à des intérimaires pour pouvoir assurer au quotidien le fait qu'il y ait des médecins devant les patients.
Mais il y a une crise de vocation, c'est ça?
Je suis pas sûre que ça soit une crise de vocation, parce qu'en fait, on arrive quand même à trouver des intérimaires. Donc, oui, c'est un métier difficile, avec des contraintes qui impliquent un travail de nuit, un travail le week-end. Mais effectivement, même si les conditions de travail sont faciles, ce qu'il faut, c'est que derrière, il y ait des conditions globales, salariales, qualité de vie, qui permettent d'attirer les gens. Mmh. Et en fait, la question, elle est là aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on attire les gens?
Écoutez, merci pour ce témoignage. Je vais donner la parole aussi à Jean-Jacques depuis Orléans. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, on vous écoute.
Voilà, merci. Bah, écoutez, moi j'ai une petite question, mais en fait qu'un coup de gueule. Je vais vous dire pourquoi. Moi je suis un ancien médecin, bientôt à la retraite, et j'ai deux enfants qui font des études de médecine qui sont à l'université. Je suis absolument effrayé, mais c'était déjà à mon époque, mais quand même ça s'aggrave, de voir les conditions dans lesquelles ces jeunes futurs docteurs, médecins, travaillent aux urgences, précisément, durant leurs études. Bon, alors, je ne vais pas tout détailler, mais sachez que sur les 3 années avant l'internat, c'est à peu près 25 gardes qu'ils doivent faire, sont des gardes de 24 heures en urgence, sont payés 45 euros. Et je trouve assez scandaleux, de la part de la ministre, de la part des personnes qu'on entend ce matin, qu'on n'évoque jamais le cas, de ces médecins en formation. Alors, c'est très compliqué pour les urgentistes qui doivent les encadrer, et là, je dois dire qu'ils font un travail considérable. Mais ces jeunes médecins, ces futurs médecins, qui sont des variables d'appoint et d'ajustement, je rappelle qu'ils sont d'environ 8000 chaque année pour passer les grands concours du classement national. Eh bien, ce sont des variables d'ajustement à bon compte et à bon frais, donc utilisent allègrement l'hôpital public et le ministère. Alors je pense qu'il faudrait un jour peut-être consacrer une émission, avec un ministre sans doute, avec des syndicats représentants de ces étudiants qui sont littéralement exploités.
Bien reçu Jean-Jacques, merci pour cette question. Aucune volonté ni de la lier, ni de faire silence. Jonathan Freund va vous répondre.
Oui, alors là, écoutez, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça parce
pourquoi
que on parle d'externe, hein, c'est-à-dire les étudiants en médecine du premier ou deuxième cycle, des gens qui ont 20, 21 ans et qui sont en formation. Alors, ils travaillent aux urgences, ils sont en formation. Alors, c'est pas leur salaire. On dit 45 euros pour une garde de 24 heures. C'est une indemnité. Voilà, ils auraient pu tout le temps ne pas en avoir. Ils ont une indemnité. C'est pas un salaire. On parle pas des internes. C'est des étudiants de 21 ans qui travaillent. Alors, certes, c'est pas beaucoup 45 euros, mais bon. Puis ça s'ajoute à leur salaire. Ils ont un petit salaire de stage. En plus, 45, c'est l'indemnité de la garde.
Donc pour vous, c'est pas un scandale?
J'irai pas sur ce terrain-là. Moi, personnellement, ça ne me choque pas.
Qu'est-ce que vous demandez, Candice Lafarge, en termes justement de rémunération dans vos revendications, les revendications du collectif Interurgence?
Alors dans les revendications du collectif Interurgence, on en vient à ce problème d'attractivité sur le terrain, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à recruter. Ça fait plus rêver d'être infirmier et être soignant aux urgences. On est victime d'agressions, On est victime en fait de nos compétences tout simplement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous êtes aide-soignante, vous avez envie d'évoluer, donc on vous donne droit à accès à un concours, mais après il n'y a pas de financement pour pouvoir évoluer.
Vous dites que vous êtes victime d'agression. C'est vrai que ce qui a déclenché, une des choses qui a augmenté le mouvement, ça a été une agression à l'hôpital Saint-Antoine. On dit souvent que les urgences sont le miroir de la société. Est-ce que vous diriez que la société aujourd'hui est plus violente qu'avant par rapport à ce que vous avez vu il y a 10 ans ?
Oui. 10. Oui. Moi, je trouve que la société est de plus en plus violente. Avant, on faisait face et on était préparé, et c'est là où on est très humble. C'est que, on se faisait cracher dessus, on se faisait insulter. C'est quelque chose qu'avec notre blouse, on endosse, on accepte. En civil, on ne l'accepte pas. Et là, on a dépassé la limite de l'entendable. On en est passé à des violences physiques qui sont de plus en plus violentes parce que les structures craquent et qu'il y a trop de monde au même moment, au même endroit.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que vous avez le sentiment que vous le dateriez, que la société, c'est crescendo chaque année, vous avez le sentiment que la violence est plus là.
Plus là, plus visible, où on est peut-être plus sensible maintenant, ou plus sensibilisé à ça, et moi je mets ça sur le compte de le mauvais accueil qu'on réserve à nos malades, principalement. Les gens sont pas forcément devenus plus méchants ou plus agressifs, mais les conditions d'accueil se sont détériorées, je pense.
Clémentine est en ligne, bonjour.
Bonjour, je suis Maria, un médecin urgentiste depuis 22 ans et je voulais vous poser une question. Je voulais savoir si vous allez profiter de l'attention dont vous bénéficiez en ce moment pour demander la reconnaissance de la pénibilité de votre métier.
Merci Clémentine pour cette question. Candice Lafarge.
Alors justement, dans nos revendications, on demande la reconnaissance de notre spécificité aux urgences via une revalorisation de 300 euros, ce qui semble être très compliqué à donner et à lâcher par le ministère de la Santé. Ils reconnaissent qu'on fait un beau métier, qu'on est dévoué pour la société et point.
Blandine est en ligne.
Oui, bonjour. Moi, j'ai une question que je suis obligée de résumer, mais est-ce que c'est possible de se tromper autant de diagnostics entre une dépression et une tumeur au cerveau, alors que le patient présentait tous les symptômes d'une tumeur au cerveau?
C'est arrivé à l'un ou l'une de vos proches, Blandine?
Mon mari.
Aux urgences.
Il aurait dû passer un IRM de force, il était mal, très très mal, très angoissé. On lui a dit, monsieur, vous n'avez pas pris les médicaments pour être calmé, vous ne pouvez pas passer un IRM maintenant. On l'a envoyé en hôpital psy 3 semaines, maltraité.
Donc c'est la question de l'erreur de diagnostic aux urgences que vous posez, Blandine, merci. Jonathan Freund.
Oui, alors des histoires comme ça, c'est terrible malheureusement, c'est terrible. On sait qu'aux urgences, il y a un fort taux d'erreurs médicales. Ça, on le sait, c'est décrit, et les causes en sont assez évidentes, quand vous voyez les conditions de travail. Donc, à la question, est-ce que c'est normal? En tout cas, normal, je sais pas, c'est terrible, des erreurs diagnostiques pareilles, c'est terrible, mais malheureusement, c'est pas rare.
Quand vous dites qu'il y a beaucoup d'erreurs médicales, par rapport à quoi? Pour nous donner un ordre d'idée, une échelle de grandeur?
5%. 5% d'erreurs médicales qui ont une conséquence même légère sur le malade. Globalement, c'est des chiffres qui ont été trouvés sur des grandes séries aux États-Unis et qu'on retrouve en France aussi. Parce que globalement, les conditions aux urgences en Amérique ou ici sont à peu de choses près équivalentes. Vous avez 5% d'erreurs médicales aux urgences.
Et vous pensez que s'il y avait plus de moyens, ça baisserait ce résultat-là ?
Oui, je le pense et je le sais presque, puisque c'est quelque chose qui est décrit et prouvé, bien sûr.
Candice Lafarge, un mot sur le sujet ?
Je pense qu'effectivement, si sur le terrain on était plus nombreux, il y aurait moins d'erreurs.
Merci à tous les deux. Candice Lafarge, je rappelle que vous êtes aide-soignante à l'hôpital Saint-Antoine, membre et représentante du collectif Interurgence. Merci également à Jonathan Freund, urgentiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, également professeur à la Sorbonne Université. Merci à vous, amis auditeurs, d'avoir été si nombreux à prendre la parole aujourd'hui.